Hello la communauté, ici Audrey de Choosing Mentor. Comme vous le savez maintenant, deux fois par mois, nous recevons des personnes qui nous inspirent et qui nous motivent afin de partager un moment privilégié avec eux. Un échange sur les parcours professionnels, universitaires, les raisons de leur choix, les gros échecs, mais aussi les grandes réussites. Et nous avons plaisir à mettre cet échange à votre disposition. L'objectif est de vous donner accès à une communauté de mentors virtuels pour vous aider à mieux comprendre les mondes professionnels et surtout à vous accompagner dans la prise de décisions professionnelles importantes. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Anan Ferjani, correspondante France 24 pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons particulièrement hâte de discuter avec Anan parce que son parcours est très riche et que nous mourons d'envie d'en savoir plus sur le métier de journaliste. Eh bien, nous n'avons pas été déçus. Avec Anan, on parle de son enfance nomade, de son hésitation entre le droit et le journalisme, des hasards professionnels qui l'ont mené à s'intéresser aux relations sino-africaines, de ses études à Cardiff et de son stage en tant qu'assistante de Léa Salamé à Itélé, ex-CNews. Anan nous parle aussi de son retour en Afrique qui lui permettait d'être plus en accord avec son mindset, du métier de journaliste et des upsides comme des downsides qui viennent avec. L'épisode est ultra riche en enseignements et vous raterez quelque chose si vous ne l'écoutez pas jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente écoute et n'oubliez pas d'en parler autour de vous et de nous noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
Bah là, je vais commencer. Du coup, bonjour Anan.
Bonjour, comment ça va?
Ça va super. Je suis très heureux de t'avoir sur Choosing Mentor. Ça fait un petit moment qu'on se cherche, en Absolument. Tout cas que je sais. Et ouais. Je suis très content de pouvoir le faire aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter si tu veux bien.
Mais d'abord, merci pour l'invitation. Hein. C'est vrai que ça fait quelques mois qu'on se parle et nos emplois du temps n'étaient pas toujours raccord, mais on y arrivait. Donc en tout cas, merci, c'est un honneur pour moi d'être là. Et donc, pour me présenter, je suis Anan Ferjani. Je suis journaliste, en ce moment, correspondante de France 24 en région Afrique de l'Ouest, plus particulièrement. Spécifiquement, pardon, Côte d'Ivoire, Ghana et Libéria.
D'accord, très clair. Et du coup, pour entrer dans le vif du sujet, ça veut dire quoi correspondant pour 324 ? Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que c'est ?
Alors, pour faire simple, donc en fait, beaucoup de chaînes comme France 24 qui traitent d'actualité internationale, comme c'est le cas de beaucoup de chaînes d'information, ont des correspondants dans différents pays, enfin différentes régions et différents pays. Donc France 24, tu le sais sûrement, c'est quand même une chaîne qui est très portée sur l'Afrique, donc un pool de correspondants et de reporters sur le continent qui est assez important. Et donc mon job consiste donc à faire du reportage, de la correspondance journalistique pour la chaîne. Sur la Côte d'Ivoire principalement parce que c'est ma base, c'est là que je suis à Abidjan, et également sur des pays qui sont un peu plus secondaires, c'est-à-dire le Ghana et le Libéria, où je vais me déplacer ponctuellement quand il y a un sujet assez fort, quand une actualité peut-être par exemple politique assez forte ou sociétale assez forte, où je me déplace ponctuellement pour des missions comme ça. Et mon rôle en particulier, parce que s'il s'agit d'une chaîne pas que bilingue, mais principalement bilingue, c'est donc de faire des directs, des plateaux, c'est ce qu'on appelle donc des correspondances enregistrées, on va dire, des interviews avec des invités ici ou dans les différents endroits où je me trouve, et des reportages, c'est-à-dire des sujets préparés, packagés, et de les envoyer donc à la chaîne en français et en anglais.
Ok. Très clair. Et juste avant cette expérience, tu étais présente chez une nouvelle chaîne de Côte d'Ivoire, ivoirienne.
C'est ça.
Rédactrice en chef et présentatrice de l'émission
Les Femmes d'ici.
Les Femmes d'ici. Et ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette expérience-là? Et du coup, pourquoi est-ce que tu changes? Est-ce que c'est parce que tu veux revenir à tes amours de l'information politique en soi, ou c'était pour autre
chose? Écoute, je pense que tu l'as très bien résumé. Pour faire simple, en fait, mais effectivement, mes premières amours, enfin, la raison pour laquelle j'ai commencé ou je me suis lancée dans ce métier, c'est vraiment parce que j'avais un intérêt pour le storytelling, pour le journalisme d'investigation, oui, mais pas vraiment, parce que j'aime, j'ai énormément de respect pour le journalisme d'investigation, mais j'en fais pas, il faut dire ce qui est. Il y a très peu de journalistes d'investigation et c'est très difficile à faire. Mais en tout cas, c'était une des choses qui me plaisait dans le métier. Et à défaut de faire ça, c'était voilà, de raconter des histoires, d'être un peu un porte-voix pour certaines personnes qui n'avaient pas forcément justement de porte-voix pour raconter leur histoire, pour mettre en relief des problématiques diverses, en particulier pour l'Afrique et l'Afrique subsaharienne plus précisément, et l'Afrique de l'Ouest encore plus précisément. Donc, effectivement, mes premières amours, c'était ça, c'est plus l'info. L'info, mais c'est pas que l'info politique, hein. J'adore la politique, j'adore les questions de sécurité, j'adore la géopolitique, mais aussi les questions de société et culturelles aussi. Donc NCI, c'était vraiment, si on regarde ma trajectoire et ma carrière depuis que j'ai commencé il y a près de 10 ans, c'est un peu différent de ce que j'avais fait jusqu'alors, et c'était une aventure, on va dire. En tant que femme africaine et qui travaille dans un domaine qui est pas évident, qui est très compétitif, j'ai travaillé en dehors du continent, mais aussi sur le continent. Je trouvais que c'était intéressant de me focaliser pendant quelques temps sur des problématiques plus féminines, parce que ça me passionne, parce que je suis une femme, mais aussi parce que je pense que les femmes sont parfois lésées dans le monde en général et dans nos sociétés, peut-être parfois un peu plus. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être une très belle occasion de toucher à différents sujets, pas que de manière, pas toujours de dire ça va pas, les femmes souffrent, hein, mais aussi de mettre en relief des profils intéressants, des femmes inspirantes, de parler d'initiatives qui mettent en avant les femmes et aussi qui aident à arriver pas forcément à une parité, mais aussi à un avancement des droits des femmes dans la société. Donc c'est ce qui m'a interpellée. En sachant que le format était très différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent, parce que c'était quand même un talk show. Ouais. Et je suis quelqu'un, j'aime le divertissement, c'est assez fun, tu vois. Donc ça me déplaisait pas d'essayer. Ça m'arrive de regarder Oprah ou des choses comme ça, donc pourquoi pas. Et donc j'ai tenté l'aventure, c'était franchement sympa. C'était bon délire parce que c'est tellement moins, comment dire,
dans la vie de tous les jours.
Et du coup, quand tu présentes un journal, parce que j'ai déjà fait le JT avant, des choses comme ça, c'est très différent. Donc, on a un script qu'on écrit et qu'on doit suivre un peu à la lettre. Là, c'est un peu plus libre, que j'ai trouvé assez intéressant. Et c'était assez fun d'être avec d'autres femmes et d'avoir donc de pouvoir mettre en relief tous ces points dont je viens de parler. Ceci dit, après quelques mois dans l'aventure qui était très intéressante, parce que j'étais, comme tu l'as dit, à la fois rédactrice en chef et présentatrice, et j'aime bien les deux, j'ai commencé un petit peu à ressentir, on dit en anglais, the itch. Enfin, ça commençait à me gratter un petit peu, j'avais envie de refaire du terrain. Et puis, j'avais aussi envie de revenir à l'information. Parce qu'en fait, l'avantage du talk show, c'est que c'est vraiment un peu un propos libre. Mais pour être honnête, l'inconvénient, c'est aussi que dans les propos libres, on est parfois, souvent, à se retrouver à dire des choses
qu'on ne veut pas dire.
Non, pas forcément ça, mais je veux dire, quand tu es quelqu'un qui aime l'information et qui aime éduquer et qui aime vraiment apporter des informations factuelles et précises aux gens, ça peut devenir un petit peu, pas dangereux, mais limite contre-productif par rapport à tout ce en quoi je crois. D'accord. Et donc, en tant que journaliste, j'avais l'impression de ne plus vraiment faire mon travail, en réalité. Okay.
On va arriver sur ces sujets-là.
Voilà.
Et du coup, on va revenir un peu au début. Comment tu grandis et c'est quoi l'impact que tout ton parcours, toute ton enfance a sur toi, sur la femme que tu es aujourd'hui?
Alors, c'est une grande question, ça. Alors, je pense que la première chose que je pourrais dire sur mon enfance et sur la façon dont j'ai grandi, en termes d'effet sur ma vie d'adulte, c'est le fait que j'ai pas une enfance très linéaire en termes de lieu de vie.
D'accord.
Donc j'avais un père qui était homme d'affaires qui travaillait un petit peu dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, donc on voyageait pas mal. Il se trouve qu'il est décédé quand j'étais très jeune, on habitait en Guinée à l'époque. Et donc du coup, ça a aussi perturbé un peu notre. J'ai grandi, je suis née au Niger, mon père est algérien mais qui a vécu au Niger, ma mère est du Niger. Je suis née au Niger, après j'étais un peu en Algérie, ensuite on allait en Guinée parce que mon père travaillait là pendant quelques temps, il est décédé en Guinée. Et à ce moment-là, bon, on se retrouve, ma mère et mes sœurs, esselées en Guinée, elle n'avait rien à faire là-bas. Du coup, elle repart pour rester auprès de ses parents parce que c'était une période difficile. Du coup, on vit au Niger pendant quelques années. Et plus tard, quand ma mère se remarie, je déménage au Burkina, où j'ai passé finalement le plus grand nombre d'années, en tout cas, de mon enfance jusqu'à ma majorité, voilà. Donc, 7 ans, de 12 à 18. Et c'est là que j'étais avant de partir étudier à l'étranger.
D'accord.
Voilà. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est le fait d'avoir bougé beaucoup en étant petite. C'était pas mon fait, hein. Bon, on est enfant, de toute façon, on suit. Mais disons que ça m'a toujours. Déjà, d'une part, en termes d'identité, je dis rarement que. Si je dis que je suis du Niger et que je suis d'Algérie, mais en général, je dis que je suis d'Afrique vraiment parce que je me sens un peu chez moi dans tous les pays africains. Parce que, enfin, surtout d'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a tellement de similitudes et de références culturelles communes. Parce que je connais beaucoup l'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai beaucoup vécu, enfin beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest. Donc du coup, il y a ce sentiment d'être à la maison un peu, que j'aille au Togo ou au Bénin ou je ne sais où. Et puis donc le fait, au-delà de cette identité un peu flexible ou fluctuante, il y a aussi le fait que je suis assez nomade, quoi. Vraiment, je dis pas que j'ai pas d'attache, mais j'ai rarement eu de problème à partir. Pas sur un coup de tête, mais dès que j'avais l'impression que, par exemple, au niveau professionnel, ça avançait pas comme je voulais, par le passé, et je pense que je le ferai encore aujourd'hui, je prends mes bagages et je pars. Et en général, ça me pose pas trop de problèmes. Donc ça, c'est d'ailleurs, je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce que dans ce métier, je pense que c'est bien d'avoir cette capacité à partir et à suivre les opportunités. Et donc, du coup, c'est le premier point.
Oui.
Auquel ça m'a fait penser, ta question. Donc, ce côté un peu mobile. Je ne sais même pas si je réponds d'ailleurs à la question.
Si tu réponds à la question, c'était de dire, en tant que bah, comme la manière dont tu as grandi, l'impact que ça a sur toi, et oui, ça t'a rendu totalement. Enfin, tu as donné la capacité de pouvoir changer d'environnement de manière assez. En étant assez à l'aise avec. Ok.
Ouais. Et aussi, donc, d'avoir vécu dans ces différentes. Et d'avoir été exposée à ces différents pays, je pense que ça a renforcé très vite justement mon envie de devenir journaliste. D'une part parce que je trouvais ça de manière assez superficielle et basique, cool de voir des gens à la télé, tu sais, faire les journalistes, et je trouvais ça trop sympa et trop fun, mais aussi parce que je voulais raconter des histoires et je voulais raconter des histoires qui concernaient les personnes qui vivaient dans les environnements que je connaissais, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, l'Afrique. Voilà.
Ok. Et comment ça se matérialise, du coup? Tu décides de devenir journaliste assez tôt, je crois que j'ai entendu dans un TEDx que tu as fait. Mmh. Ça se matérialise comment, de vouloir devenir journaliste? Tu décides de faire des études, pas de journalisme pour commencer, donc pourquoi? Ouais.
Alors, pourquoi? Alors, je me rappelle, je pense que la première fois que j'ai commencé à mûrir l'idée, ou qu'elle commence à mariner dans ma tête cette idée de devenir journaliste, je pense que j'ai 14 ou 15 ans. Et je suis presque sûre que c'était une. J'ai toujours été très américanisée parce que mon père a fait ses études aux États-Unis, donc je regardais des séries américaines très jeune D'ailleurs, j'ai appris l'anglais comme ça. Et je crois que c'était. Dans plusieurs séries, il y avait des journalistes qui étaient sympas dedans, que j'aimais bien les personnages, et puis il y avait aussi Dawson, dont la mère était journaliste. Par exemple, un exemple tout bête. Et puis, on regardait pas mal CNN à la maison, et j'aimais beaucoup Christiane Amanpour, ouais. Qui était pour moi tellement impressionnante et charismatique. Et donc, c'était. Je me rappelle, je regardais donc ces personnes présenter des JT ou même faire du reportage, et je me disais, franchement, ce métier a l'air très, très intéressant et très gratifiant. Je pense que j'en connaissais pas le dixième de ce que ça représentait vraiment, mais en tout cas, il y avait un attrait. Et donc, je me suis posé des questions. À l'époque, bon, quand j'avais 14-15 ans, Internet, c'était très limité. Je ne sais même pas si on avait Internet, moi, j'y pense. Je crois que oui, mais bon, ça allait de à l'heure. Donc, comment tu fais tes recherches? En réalité, c'est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, quoi.
Bien sûr.
On était à l'école française avec mes sœurs. Et donc, du coup, j'en parlais avec les conseillers d'orientation, comme il y avait à ce moment-là. Et c'était... je me rappelle, et je ne sais pas si c'est toujours une problématique, mais... J'ai l'impression qu'en tout cas pour les écoles françaises en Afrique, ils étaient toujours un peu limités dans les propositions qu'ils faisaient en termes d'école. Oui, voilà ce que tu peux faire. Et ils avaient pas vraiment, j'avais pas l'impression qu'ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient.
Clairement, ça va changer. Hein.
Ouais, justement, il faudrait que je pose la question à des personnes plus jeunes, mais ouais, j'avais vraiment l'impression que c'était pour des métiers vraiment classiques, c'est-à-dire
médecin, avocat.
Médecin, ou... mais dès que ça devenait un peu plus, alors encore journaliste, c'est pas très, c'est pas le métier le plus créatif ou comment dire ou marginal qui existe, c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que j'avais personne dans mon entourage, en tout cas, qui parlait de ça. Dans ma promotion ou quoi que ce soit. Donc j'étais un peu perdue jusqu'à ma première terminale. Et puis il faut dire qu'à l'époque, en plus, c'était un peu. Ma mère disait toujours que comme j'étais quelqu'un qui adorait argumenter, j'adorais les débats, j'adore toujours les débats. Et que j'aimais défendre aussi les gens parce que j'étais toujours en train d'essayer de rétablir la vérité s'il y avait une sorte de discorde à la maison ou même avec des amis. Moi, j'étais toujours un peu la médiatrice. Ma mère me disait, mais tu te ferais une excellente avocate ou quelque chose de ce style, quoi. Médiatrice, j'en sais rien. Voilà. Et donc, effectivement, quand quelqu'un met en relief, et surtout parent, une qualité que tu as, tu te dis, ah, c'est peut-être ça, la petite raison, c'est vrai qu'en réalité, je pense que je pourrais m'en sortir. Donc, disons que j'étais un peu entre les deux.
D'accord.
Jusqu'à ma terminale, et puis après, il se trouve qu'après des conversations avec les parents, je crois qu'en première, j'avais tranché, je me disais, c'est plus simple de faire avocat, en réalité, ils ont raison. Le journalisme, c'est précaire, encore plus si tu veux entrer sur le continent africain à un moment donné. C'est très compétitif et puis c'est dangereux. Bon, il y a tous ces préjugés qu'on a sur le métier qui ne sont pas entièrement faux, hein, qui sont en réalité aussi fondés sur une certaine vérité. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus simple et plus réaliste que d'emprunter la voie du droit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une licence de droit. Licence de droit à Nice, Sophie Antipolis.
D'accord.
Alors, en Afrique, on aime bien les regroupements familiaux. Donc, il se trouve que ma sœur par alliance habite à Nice. Je voulais pas du tout vivre en France, mais moi, c'était vraiment pas mon délire. J'ai jamais été. J'aimais la France parce que j'allais en vacances de temps en temps, mais c'était pas. Je voulais aller aux États-Unis, personne ne voulait m'écouter. C'est bon, on va vous mettre ensemble, c'est plus simple. Bon, après, je peux comprendre, en plus, c'est plus économique, c'est plus proche. Je suis partie à Nice et j'ai fait ma licence là-bas. J'ai pas particulièrement aimé, mais j'ai terminé ma licence. En deuxième année de droit, disons que ça m'a un peu. J'ai eu vraiment une révélation et je me suis rendu compte que. Bien sûr, j'apprenais, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes dans le droit. C'était pas dégueulasse, c'était pas forcément quelque chose que j'aborais, mais c'était pas moi. Et j'aimais pas la pensée binaire qu'il y a dans le droit où il fallait faire un commentaire d'arrêt avec deux parties, A et B, et c'est tout. Et ça me fatiguait, et ça me plaisait pas, et ça me parlait pas. Et j'avais pas l'impression de pouvoir m'exprimer dans ce domaine-là. Et donc, j'ai terminé ma licence parce qu'il fallait, et puis j'ai trouvé une passerelle juste après. Et comme en France, je vais le dire parce que peut-être ça permettra à certaines personnes à qui ça intéresse de mieux savoir. En fait, c'est en général, c'est vrai que rares sont les personnes qui empruntent le parcours d'études journalistiques après le bac. T'es plutôt, tu fais une licence en histoire, en droit, en sciences politiques, en ce que tu veux. Et après la licence, tu fais un concours. C'est un peu arbitraire comme système, je ne suis pas très fan, et tu fais un concours et tu essaies d'entrer dans une des écoles reconnues. Les 12 écoles reconnues, il y en a 12. L'ESJ, c'est une des meilleures, CEJ, etc. Et voilà, donc c'est un peu comme ça qu'en général ça fonctionne, en tout cas pour ceux qu'on connaît aujourd'hui, peut-être pas la plus vieille génération, mais au moins la dernière et l'avant-dernière génération de journalistes, c'est un peu leur parcours. Moi, j'avais pas forcément envie de passer les concours parce que, encore une fois, j'ai jamais vu ma carrière journalistique en France. Donc, je voyais pas l'intérêt d'être dans une école journaliste en France. Je trouve qu'elles ont pas particulièrement. Les recherches que j'avais faites m'avaient montré que c'était pas très porté sur l'anglais ou sur l'ouverture à l'international. Donc, ça me plaisait pas trop. Enfin, ça ne m'attirait pas plus que ça. Du coup, j'ai fait un master de Sciences Po, 1 et 2, à Toulouse. Et puis après ça, je suis entrée dans une école de journalisme, mais en Angleterre. Sauf que j'ai travaillé un petit peu entre les deux. J'ai fait des stages parce qu'il fallait que je me mette un petit peu la main à la pâte aussi. J'ai fait des stages dès la fin de ma licence. J'ai fait des stages en journalisme un peu à Paris. Je suis partie en Chine pour faire un stage aussi. après mon master. Voilà, j'ai essayé de faire autant de pratiques que possible avant de commencer réellement mes études.
D'accord. Et avant d'arriver...
Parle beaucoup, Malik, je te préviens.
Tu as totalement raison, ouais, et c'est pour ça, c'est pour toi que c'est pour toi que les gens écouteront, donc ils t'ont tellement parlé. Avant d'aller sur c'est Cargill, hein. Oui, c'est ça, c'est Cargill.
Non, c'est alors c'était Cardiff.
Cardiff.
C'était donc au Pays de Galles.
Oui.
Donc à Cardiff, et c'était l'école de journalisme de Cardiff.
Oui, ok. Avant d'arriver dessus, je vois dans ton parcours, en tout cas, en faisant mes homeworks, que tu as fait beaucoup de choses avec la Chine.
Ouais.
Il y a un petit focus à un moment donné dans tes études, notamment ta thèse de licence, de master.
C'est ça.
Ouais. Sur les impacts des flux économiques sur les étudiants étrangers.
C'est ça.
Que tu veux nous en parler un peu de ce focus-là et...
Alors ça, c'est arrivé un petit peu par hasard, en réalité. Cet intérêt pour les relations sino-africaines. Ce n'était pas forcément prévu, c'était un peu fortuit, mais disons qu'après, après ça s'est un petit peu imposé parce que ça avait du sens. En fait, ce qui s'est passé, encore une fois, au regroupement familial, ma sœur à l'époque faisait un MBA à Peking University. C'était ça ? Je crois que c'était ça. Non, j'ai oublié le nom de l'école. Bon, bref.
C'est pas le droit.
Elle faisait un master à l'époque. Son MBA, pardon, là-bas. Elle habitait en Chine donc, depuis quelques mois, ou sinon un an. Et moi, j'en avais marre de la France, je voulais partir. Et en Master 2, on a le choix de faire son stage où on veut, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de partir un petit peu loin. Et bon, ma soeur est en Chine, je vais en profiter pour y aller. Donc, j'étais avec elle, on s'évertue à essayer de me trouver un stage, en sachant que même si je faisais Sciences Po, je voulais un stage en journalisme ou dans les médias parce que j'avais toujours dans l'idée de faire mon journalisme après. Mais je pensais, et je pense que j'avais raison, que la science politique, surtout les relations internationales, pouvait aussi m'aider dans ma culture générale pour justement appréhender ce métier. Et donc du coup, ma sœur m'aide à chercher, on cherche ensemble un petit peu, et donc je finis par avoir un stage avec... bon, je pense que tu t'en doutes, le journalisme en Chine est très limité, hein, c'est du journalisme d'État, tout simplement. Et donc, mais après, ils ont quand même des structures qui s'appellent, enfin, des magazines, des différents médias, surtout en ce qui concerne les relations internationales, qui sont un petit peu plus intéressants que ce qu'on peut faire au niveau national. Donc, il y avait un groupe au sein de l'appareil médiatique public chinois qui s'appelait donc Beijing Review, et qui avait un magazine qui s'appelait, je crois, China Africa, tout simplement. Et donc, je crois, à travers mes recherches et 50 000 demandes de stage, je finis par obtenir un stage là-bas. Tout simple pour écrire donc, sur les relations sino-africaines. Je me dis, au pire des cas, c'est au moins, au moins un lien avec les relations internationales et puis au moins une expérience voilà, de dépaysement et d'apprentissage d'une nouvelle culture et tout ça. Donc, je suis allée 6 mois en Chine. Superbe expérience, j'ai adoré. Et donc, j'ai travaillé à China Africa pendant 6 mois. Et c'était d'écrire des articles sur les initiatives de la Chine en Afrique, de manière très, pas critique, hein, faut pas se mentir.
Oui.
Voilà ce qui se passe, voilà le nombre d'initiatives, voilà nanana, les relations, machin. Mais en même temps, j'écrivais mon mémoire sur ce que ça signifiait justement que cette relation qui était dans tout ce qui était win-win, un peu en dehors de ce que la France faisait avec l'Afrique ou de ce que d'autres pays faisaient avec l'Afrique, en dehors de l'impérialisme, en dehors du colonialisme et tout ce qui s'ensuit. Donc un peu ce qu'il y avait comme idée et la théorie derrière sur les relations gagnant-gagnant et ce qui se passait réellement. Donc c'était intéressant parce que c'était une sorte de double... À la fois je travaillais pour eux, mais en même temps je faisais une sorte d'enquête sur ce qui se passait.
Une critique.
Voilà, une critique, donc c'était intéressant. Et donc c'est ce qui a un peu éveillé ma curiosité sur les relations sino-africaines. Pardon. Et plus tard, donc comme je finis mon stage et je finis ma thèse, normalement je devais enchaîner avec mon stage, enfin avec mon master, pardon, à Cardiff. Sauf qu'il se trouve que je galérais à avoir mon visa pour aller au Royaume-Uni parce qu'il y avait toujours des petits problèmes et que j'étais en retard, qu'il y avait des documents qui manquaient. Et donc je me retrouve avec 1 ou 2 mois de retard sur les cours, et donc c'est mieux ils appellent ça defer, donc de décaler un an. Alors, je suis un peu dévastée, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pendant un an de ma vie, quoi ? J'ai pas de boulot, c'est un petit peu... Enfin, voilà, c'était pas prévu, quoi. Et là, encore une fois, ma sœur, qui je pense, m'entendait me plaindre tous les jours, et que ma vie est finie, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'avenir, voilà. À l'époque, j'étais très comme ça, j'étais très mélodramatique. et donc qui m'envoie un jour une sorte d'appel à candidature pour des personnes qui veulent faire des recherches sur les relations sino-africaines avec un papier scientifique avec un peu de pratique, c'est-à-dire qu'en gros c'est un voyage c'est un séjour entre l'Afrique du Sud et la Chine, et en gros tu présentes ton sujet, s'il plaît et s'il est intéressant, ils te prennent et tout est pris en charge. Okay. C'est au Center for Chinese Studies de Stellenbosch. Stellenbosch, c'est dans la région du Western Cape, en Afrique du Sud, à côté de Cape Town. Donc, je postule. Miraculeusement, je l'ai, le truc. Donc, j'y vais et donc, je passe... Donc, l'année qui a suivi, en fait, c'était ça. J'ai passé quelques mois en Afrique du Sud, ensuite quelques mois en Chine, à faire mes recherches sur... Donc, c'est... Je ne sais pas trop comment, je me rappelle plus de la façon de l'idée, comment elle m'est venue, mais je pense que c'était parce que justement j'avais été en Chine avant. J'avais rencontré tellement d'étudiants africains pendant mon séjour en Chine, de tous les pays, des personnes que j'avais jamais rencontrées, même sur le continent africain, enfin des nationalités que j'avais jamais rencontrées sur le continent africain. Et ça m'a intriguée, du coup je me suis dit, ça pourrait être pas mal de faire un papier sur les étudiants africains en Chine, surtout qu'ils bénéficient d'une bourse chinoise, qui est assez, ouais. C'est quand même spécifique, hein, c'est pas beaucoup de, surtout à une aussi grande échelle, peu de pays le font, à part un petit peu l'Inde aussi, et il me semble un autre pays d'Asie, mais je sais plus lequel, mais la Chine, en termes de nombre de bourses octroyées aux étudiants africains, c'est énorme. Et donc je me suis dit que ça pouvait même être intéressant au niveau des relations internationales, parce que ça crée finalement une sorte de nouvelle génération de personnes qui va contribuer à ces échanges. Et donc, de quelle manière, qu'est-ce que ça peut présager des années futures et des relations entre ces pays-là ? Est-ce que ça va être quelque part un outil de propagande ? Au contraire, est-ce que c'est une bonne chose ? Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. Et donc, j'ai fait mon papier là-dessus. Je ne suis pas sûre que ça ait été, des révélations. Mais je pense que c'était un bon début de recherche dans ce domaine. Parce que la chose dont je suis fière, c'est que je suis, je pense, l'une des premières personnes à avoir écrit sur le sujet. Ouais. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, il a été publié en 2012, mon papier. Et il est encore cité par des chercheurs ou des scientifiques qui travaillent dans ce domaine-là, qui ont poussé beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin, mais qui l'utilisent dans leurs références.
Excellent. Bah, je vais regarder. C'est pas un sujet qui était dans mon radar, mais j'ai commencé à regarder, ça peut être super
intéressant. Ça t'intéresse, ça peut être pas mal, mais après, comme j'ai dit, ça date un peu hein, quand même. Ça fait,
non, mais je veux dire, même la tienne et...
Oui, le thème, ouais.
Les travaux...
Je pense que, je sais pas si c'est toujours pertinent, mais à la rigueur, peut-être que ça le sera à long terme.
Ouais.
De vraiment, de regarder ça aujourd'hui, c'est finalement les effets, je pense, qui vont se ressentir plus tard. La géopolitique change tout le temps, Mais finalement, si tu compares encore une fois avec... Il n'y a pas d'autre puissance mondiale qui a ce genre d'approche par rapport
à l'Afrique.
Oui, ils sont... Venez. Après, je ne te parle pas du traitement des Africains une fois qu'ils sont là-bas.
Là-bas, oui.
Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, octroyer des bourses pour qu'ils viennent et qu'ils étudient, même si ce n'est pas forcément dans les meilleures conditions, même si c'est des bourses qui sont parfois très petites, finalement. En tout cas, c'est ce dont certaines personnes se plaignent. Il y a quand même un grand nombre d'étudiants, depuis 10 ans, sinon plus, qui étudient en Chine et qui reviennent en Afrique et qui contribuent donc aux relations économiques entre l'Afrique et la Chine, qui travaillent, qui sont des ambassadeurs, en fait, ou des apporteurs d'affaires pour les uns et les autres.
C'est bien sûr.
Un nombre conséquent.
Ok, top. Voilà. Et à Cardiff, du coup, tu t'éclates plus qu'à Nice
Oui, franchement, oui. Alors moi, j'aime bien les grandes villes, mais j'ai adoré Cardiff. J'hésitais entre Cardiff et Londres parce que les deux très bonnes écoles du Royaume-Uni sont là-bas. Il y a donc City University à Londres et Cardiff à Cardiff. Et donc j'hésitais un petit peu entre les deux, mais j'ai fait mon choix parce que pour des raisons purement économiques, c'est que Londres c'est hors de prix en tant qu'étudiant. Et j'étais à trois heures finalement
de Londres
en bus, donc j'y allais tout le temps. Et Cardiff c'était une belle ville étudiante avec beaucoup plus de passé abordable. Tu rencontres des gens, c'est sympa quoi. C'est moins agressif. Et donc c'était super en termes de au niveau formation, je ne suis pas forcément de la trempe, enfin de l'école, de ceux qui pensent qu'il faut absolument étudier le journalisme pour être bon journaliste, pas du tout. Je pense qu'à la rigueur, il faut étudier autre chose pour avoir des connaissances concrètes et pouvoir les appliquer dans son métier de journaliste. Ceci dit, moi, ça m'a beaucoup appris. Et surtout, après, il y a quand même des compétences techniques à acquérir qu'on peut acquérir autrement que par un master. Hein. Mais quand on fait dans l'audiovisuel, comme c'est mon cas, dans tout ce qui est télé, vidéo, j'ai appris moi tout ce qui est compétences techniques, tout ce qui est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'est pas du métier, mais poser sa voix, la diction, l'élocution, écrire pour la télé, ce qui n'est pas pareil qu'écrire pour la radio,
Tu l'as fait tout ça en école, hein, c'est ça.
J'ai appris en école, ouais. Ouais. Après, tu l'apprends, tu commences à l'apprendre en école. Tu continues à t'apprendre encore et encore quand tu exerces. Mais c'était un premier pas. Après, la réalité, c'est que je l'apprenais en anglais. Et ça, c'est la grande
différence et avantage.
Différence et pas de difficulté, parce que finalement, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu les deux. Mais du coup, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes codes. Donc du coup, en fait, ce que tu apprends dans une langue, c'est pas forcément applicable à l'autre. Donc c'est un petit peu... Quand tu travailles... dans ce métier, dans les deux langues, je pense que ça s'applique à d'autres métiers aussi. Y a quand même pas mal de switch à faire des apprentissages simultanés en fait à faire.
Et du coup, ta carrière, ta première carrière, tu la commences où, comment? Je sais que le point un peu, le point de référence, c'est un peu ce que tu me disais au début, c'est que tu as beaucoup changé. À la fois de la presse écrite, ce que j'ai cru voir, hein, pour le point, de la presse. Audiovisuel.
Ouais.
Tu as un peu sur ta carrière avant ton retour en Afrique.
Disons que j'ai fait plus de télé qu'autre chose.
D'accord.
Mais disons, ce dont je te parlais tout à l'heure, c'était de mes stages. En fait, j'ai commencé par des stages en presse écrite. J'ai commencé par un stage, je crois que c'était en fin de licence, de droit au Parisien. Donc, j'étais au service international. Donc, c'était cool parce qu'en plus, c'était en plein. Ma fin de licence, je sais plus. C'était en plein printemps arabe. Et comme ils n'avaient pas énormément de monde, d'Africains du tout, je crois qu'ils n'en avaient pas du tout, dans leur service international, du coup, moi, j'avais pas mal travaillé sur ce qui se passait en Afrique noire. J'avais des contacts, donc j'avais écrit pas mal de choses là-dessus. Ça avait confirmé aussi mon intérêt pour le métier. Donc ça, c'était ma première vraie expérience en presse écrite. Après, j'ai fait un truc qui n'avait rien à voir. Ah non, pardon, j'ai commencé par Stade 2. Un stage pour Stade 2, alors que je déteste le sport. Peut-être pas le sport de manière générale, mais je veux dire, être journaliste sportif, ça n'a jamais été mon ambition du tout. Mais je l'ai fait parce qu'encore une fois, c'était un Stade 2, France 2, donc très bien. J'ai commencé à faire un truc, mais c'était vraiment basique. Hein. Je faisais des pauses de voix, des petites choses vraiment basiques. Après, premier stage, presse écrite qui est un peu conséquent, où j'ai eu des tu sais, quand tu signes un papier,
donc c'était,
tu signes ton article, c'était pour le Parisien. Et après ça, j'ai fait un peu de... Oui, j'ai fait du en ligne pour Webedia, Pure Trend.
Okay.
Donc, rien à voir, de la mode. Pareil, c'est parce qu'ils cherchaient des trucs, donc je prenais. Et d'ailleurs, je crois qu'ils m'offraient un poste à la fin de mes 3 mois là-bas. Mais bon, pareil, je ne voulais pas devenir journaliste mode. C'était pas du tout mon... Puis c'était journaliste mode people en plus. Donc, c'était encore moins mon truc.
Ouais, Pure Trend, quoi.
Ouais, Pure Trend, quoi. Donc, vraiment... Et puis, c'est pas genre... Bon... Attends, je vais pas mal parler des gens, mais vraiment quoi. C'était pas pour ça que j'ai étudié. Sans être condescendante, hein, c'est juste pas mon
truc. Bien sûr.
Et donc du coup, oui, c'est vrai que j'ai un peu touché à tout. Mais à partir du moment où j'ai fini mon master, pareil, il y a encore une période d'incertitude parce que tu commences à chercher. En fait, vous sortez tous d'école et c'est vrai, t'as eu un bon diplôme, mais c'est là le moment c'est là où tu commences vraiment, limite, à te remettre en question. J'ai fait un deuxième master, j'ai 24 ans, parce que j'ai fait beaucoup d'études. Alors, et si je ne trouve pas de taf? Tout ça pour ça, en fait. Et surtout que, bon, les études au Royaume-Uni, quand tu es pas européen, ça coûte cher. Donc voilà, donc c'était vraiment un moment pendant quelques mois. Bon, c'était pas si long, hein, mais ça m'a semblé une éternité. C'était, je crois que j'ai cherché pendant 2-3 mois. Et j'ai eu mon premier stage long qui a conduit à un travail. Donc c'était pour ITélé.
Ok.
C'est là que j'ai travaillé donc pour Léa Salamé. Donc en tant qu'assistante présentatrice de Léa Salamé pendant 6 mois je crois, avant d'être pigée toute là-bas. Mais donc c'était mon entrée dans la télé, dans la première chaîne de télé en France en tant que journaliste, etc.
Elle est sympa, c'est un modèle ou pas du tout?
Un modèle, oui. Un modèle, oui. Bon, les gens, beaucoup de personnes me posent la question dès que je leur dis, ah, j'ai déjà été assistante de Léa Salamé. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'idées sur elle, que je peux comprendre d'ailleurs. Alors, si je dis qu'elle est sympa, je dirais pas que c'est sa première qualité. Voilà.
Donc,
je dirais pas que quand on voit Léa Salamé, qu'on lui parle, et que c'est la personne la plus avenante et la plus gentille qui soit. Ceci dit, je pense qu'elle était bienveillante. Enfin, c'est mon point de vue, mon interprétation, malgré des hauts et des bas, et même beaucoup de...
Bien sûr.
Et c'était pas facile, hein, de travailler avec elle. Moi, je dirais qu'elle était bienveillante. Disons que quand je commence à être son assistante présentateur, c'est la première fois que je fais de la télé.
Assistante présentatrice, ça veut dire que potentiellement, si elle n'est pas là, c'est toi qui prenais le...
Ah non, pas du tout. Okay. Je sais pas si c'est encore comme ça maintenant. Ça dépend des chaînes, mais chez ITélé, à l'époque, ITélé qui est CNews aujourd'hui, c'était, t'avais donc des présentateurs, mais tous les présentateurs avaient des assistants qui en général étaient des stagiaires parce que ça coûte rien, tout simplement. On paye 400 euros par an, tout simplement. Et donc, du coup, ce que tu es censé faire en tant qu'assistant présentateur, c'est rédiger les scripts des journalistes qui vont présenter. Et en réalité, s'ils ont un problème, non, c'est d'autres journalistes, d'autres présentateurs qui les remplacent. Mais c'est à la fois ça, à la fois leur amener toujours leur... Parce qu'en fait, comme il y a un JT toutes les 15 minutes, à peu près, tu dois du coup toujours actualiser.
Ouais.
Après, j'étais principalement avec Léa Salamé, mais j'ai eu, pendant mon stage et après mon stage, à travailler avec d'autres présentateurs. Et chacun avait une méthode très différente, c'est-à-dire qu'il y en avait qui écrivaient... Allez, trois lancements. Un lancement, c'est, je sais pas si je dois le dire, mais l'expliquer, mais c'est donc du coup quand tu fais ton JT, tes lancements, c'est ce qui permet d'annoncer en gros la news, voilà, avant de lancer un sujet ou d'appeler un correspondant au téléphone ou ce que tu veux. Donc c'est la partie que le présentateur dit, c'est ça le lancement. Et donc t'en avais qui écrivaient tous leurs lancements et qui ne prenaient tes copies et tes scripts que quand c'était des news qui tombaient pendant qu'ils étaient à l'antenne. C'est-à-dire qu'il y a une alerte, ils vont voir un peu, parce qu'ils ont accès aux dépêches et aux alertes, mais ils n'ont pas vraiment le temps de lire ou de développer ou de réécrire. Donc toi, tu leur écris un truc et tu leur envoies et tu l'imprimes rapidement et tu leur files dès que tu peux. Donc c'était ça aussi le but, c'était vraiment qu'ils ne soient jamais à la ramasse, parce que c'est normal que les choses évoluent. Mais tu avais aussi des gens, tu as vraiment différents types de présentateurs, tu as des présentateurs qui... avant de faire leur premier JT, on préparait pendant bien une heure au moins les actus qu'on sait à ce moment-là et qui ont tout écrit. Et donc, du coup, tu n'as pratiquement rien eu à faire à part à les imprimer. Et tu en as qui ne vont rien écrire du tout et ils vont juste modifier 2-3 mots. Voilà. Mais Léa, justement, et c'est pour ça que je dis que c'est un modèle, c'est parce que Léa, elle me faisait tout écrire, tout son JT. Et comme en plus, je voulais l'impressionner parce que c'est normal, tu sais, c'est ta boss, c'est le premier truc un peu... Du coup, tu sais, je me rappelle les premières fois, elle me le disait, hein, c'est horrible ce que tu fais. C'est n'importe quoi, c'est pas un lancement. mais genre, limite, tu sais pas écrire. Après, elle me disait aussi, mais ça se voit que t'as été en école dans un anglophone parce que t'as des formules, c'est des anglicismes. Du coup, j'étais super sans franchise par rapport à ça. Du coup, je me disais, mais pourtant, je suis francophone. Enfin, ma langue maternelle, c'est le français, mais comme je n'avais pas écrit pour la télé en français, du coup, j'avais effectivement acquis ou pris des
automatismes anglophones,
et du coup, j'arrivais pas à aller, je galérais pendant 2-3 mois, et pour qu'elle me décroche un compliment, c'était dur, quoi. Et en plus, la plus grande difficulté, c'est qu'après, elle allait à l'antenne et qu'elle avait ses 50 fiches, et il n'y avait pas un mot qui était de moi, rien.
Rien. Ah oui?
Ah oui, parce qu'après, mais ça, c'était pas, je m'en suis rendu compte après. Je me disais, c'est parce que je suis trop nulle et qu'elle déteste mes textes et que du coup, elle lit jamais rien. Mais en fait, c'est pas ça et c'est pour ça que je la respectais. C'était pas que parce que peut-être qu'elle n'aimait pas forcément tout et qu'il y avait des moments où elle aimait bien, mais c'est surtout parce qu'elle avait sa patte et qu'elle tenait à écrire, à dire ce qu'elle écrivait, et c'est ce qui me plaisait chez elle. Et je me rappelle que en voyant Léa travailler, je me disais toujours, si un jour je passe à la présentation, je ferai pareil. J'ai pas envie que ce soit les, enfin, oui, tu as toujours besoin d'aide, c'est pas un truc qu'on fait tout seul. De toute façon, c'est le journalisme en télé et partout, c'est collaboratif. C'est pas vraiment une question d'ego, mais le fait de dire que t'es pas un présentateur qui vient juste lire des choses, tu t'es approprié les mots, parce qu'après tout ce que tu dis, c'est vraiment ta responsabilité en réalité, c'est toi qui es engagé, c'est ton visage qu'on voit, donc c'est important d'employer tes mots et tes formules, et je la respectais énormément pour ça, parce qu'elle pouvait débarquer à je sais pas quelle heure complètement tu sais, genre elle adorait parler à gauche à droite avec plein de gens, causer, tourner en rond pendant des heures avant de s'asseoir à son bureau. Et quand du coup tu voulais lui parler, elle avait pas ton temps. Et quand elle commençait, non mais c'est vrai. Je sais qu'elle va pas écouter ce podcast, donc tout va bien.
On sait jamais.
Mais après, je pense qu'elle rigolerait. Je pense pas qu'elle le prendrait. Mais après, quand elle commençait, par contre, qu'elle démarrait son moment, enfin, je crois qu'elle se donnait, je sais plus combien d'heures, pas beaucoup. Et qu'elle démarrait, elle était impressionnante. Impressionnante, et du coup, modèle par rapport à ça, parce qu'elle était très intelligente, très sharp, très, très réactive. Et puis parce qu'elle elle se reposait pas sur ses lauriers, quoi. Parce que, autant elle était petite, je vais être honnête avec toi, elle était un peu diva sur les bords, elle aimait qu'on soit un petit peu à ses petits soins, mais par contre, elle bossait, quoi. Et ouais. Ça, moi, je respectais. Et elle a été bienveillante, parce qu'à la fin, tu vois, c'est elle qui m'a aidée un petit peu à rentrer à France 24. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, et je lui ai dit, tu vois, on a eu des conversations, sur ma carrière, sur mes envies, sur mes aspirations, et je sais que si je lui envoie un message demain, elle me répondra.
Bien sûr, ouais. Ok. Bah, moi, je sais qu'elle est très clivante, il y a des gens qui aiment beaucoup et des gens qui n'aiment pas du tout, et moi, je suis plutôt dans le camp des personnes qui aiment beaucoup, qui aiment son travail, qui aiment ses interviews, et je trouve qu'il y avait un peu un faux procès. Qui voulait la faire, enfin concrètement, qui disait qu'elle était impolie avec des hommes politiques, mais un procès qu'on fait par Bourdin, tu vois.
Non, je suis d'accord, mais je suis absolument d'accord. Mais déjà, on va dire que c'est toujours, enfin, que c'est les féministes invétérés qui disent toujours la même chose, mais je pense qu'il y a un peu du fait, derrière ce type de critiques, qui sont un peu du deux poids, deux mesures, je pense qu'il y a le fait que c'est une femme et que...
Bien sûr, moi j'en suis persuadée.
Et que, on estime qu'il doit avoir une certaine douceur qui émane de la femme. Qu'elle soit moins incisive, moins... C'est comme ça, hein. Enfin, c'est la réalité. Je pense que ceux qui ne veulent pas l'avouer, ils ne sont pas très honnêtes.
C'est clair. Et du coup, donc, tu fais ITélé, France 24 directement après.
Alors, ITélé, donc après, en pige, je faisais encore de l'assistant de présentation. Donc pour d'autres... Quand j'ai fini mon stage, je faisais ça. Donc en pige, ça veut dire que tu es freelance. Donc on t'appelle pour des choses ponctuelles, donc tu es payé vraiment à la pige. Et aussi, j'ai commencé à faire du desk. Donc, du desk, c'est quand tu commences à écrire des sujets depuis la rédaction, donc pas sur le terrain. Donc, j'ai commencé à faire des petites choses différentes. Le fait est, et ça, je l'avais expliqué à Léa aussi, c'est que le fait est que je n'aimais pas l'actualité française, encore une fois.
Ouais.
Ce n'était pas mon truc. J'avais aimé pendant quelques mois. Je trouvais ça intéressant dans certains... dans une certaine mesure, mais ce n'est pas ce qui me bottait. Je voulais faire de l'international, tout simplement. Donc, France 24, ça me semblait être... quelque chose qui m'irait mieux, qui me serait mieux. Et donc, du coup, Léa, donc, avait bossé à France 24 avant. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais elle avait fait ça. Du coup, m'a mis en contact avec François Picard, qui est le présentateur du débat sur France 24. Et donc, il a commencé à me faire intervenir une fois ou deux sur l'antenne pour parler, par exemple, des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest, quand Boko Haram... les attaques de Boko Haram ont commencé à se multiplier, mais surtout comme il y en avait au Niger et que j'étais du Niger, et donc c'était un peu ma porte d'entrée. Je faisais aussi du desk là-bas, et tout ça toujours en freelance, et je crois que j'ai quand même une période assez nébuleuse, où tu fais des choses mais c'est pas assez, et t'as l'impression que ça permet pas de faire avancer ta carrière, et même si t'es à France 24, on te voit pas vraiment. Et donc du coup c'était comme ça pendant un an, un peu moins d'un an, je dirais peut-être 7-8 mois, et c'est un peu ce qui m'a poussée du coup à aller faire mon propre reportage un peu en mode
j'ai entendu parler de cette histoire, mais est-ce que tu peux nous la raconter?
Alors donc en fait ce qui se passe, c'est que bon, je suis un petit peu chez France 24 et un peu chez ITL parce que je suis pigiste, je suis contractée nulle part. Et je commence un petit peu à me sentir... ça avance pas, quoi. Et donc, comme on peut pas passer à l'insurrection, mais bon, en gros, les attaques de Boko Haram au Niger se multipliaient, c'était autour de mars 2015, il me semble, si je ne me trompe pas. Je me disais, ils envoient des gens, ils avaient envoyé, je crois, ils envoyaient un de leurs grands reporters au Tchad, ou au Cameroun, qui avait fait un reportage. Mais personne au Niger et personne dans la zone de Diffa. Donc, je me disais, bon, ça mériterait quand même de faire un petit focus là-dessus. Mais peut-être que je devrais y aller moi en solo, parce que de toute façon, il y a quand même des cases qui sont bien là, hein, chez France 24, mais pas que chez France 24, en tout cas à l'époque. C'est que t'es grand reporter, t'es desker, t'es présentateur, t'es présentateur. Chacun est un peu à sa place, et si jamais c'était pas la place que tu voulais, mais tu t'es retrouvé là un peu par hasard, et bien t'es un peu pas condamné, mais ouais, t'es un peu là, quoi. Donc du coup, je savais que, et c'est normal, j'avais très peu d'expérience finalement, personne va m'envoyer, alors que je suis pas contractée, qui me connaissent pas vraiment, pour aller faire un reportage sur Boko Haram, c'est complètement normal d'ailleurs. Du coup, je suis partie parce que j'avais un oncle qui était à l'armée, qui était gradé. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses que je peux faire un reportage embarqué avec l'armée à Diffa? Il m'a dit, vas-y, viens, il n'y a pas de problème. Et j'avais... Je n'étais pas la meilleure... Enfin, même à l'école, je n'étais pas la meilleure caméra... ouais. Du monde. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un fixeur, quelqu'un qui va être à la caméra. Moi, je m'occupais d'écrire le récit et de faire les interviews. Et donc, j'y suis allée avec un fixeur et un autre, deux mecs.
Oui, du coup, que t'as dû payer ou...
Oui, j'ai dû payer. Ouais, c'était un peu. Je recommanderais pas ça à tout le monde. En réalité, c'est pas forcément le. C'est pas sûr d'avoir un retour sur investissement. Mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Après, je ne regrette pas du tout, au contraire, je pense que ça m'a ouvert des portes, hein, mais il faut pouvoir, quoi. Donc, j'avais un peu tout de côté, je les ai pris, je suis partie. Donc, billet d'avion, après, il faut aller de Niamey à, dans le sud, pareil, il faut payer, il faut payer les deux gars que tu embauches, qui t'emmènent, un qui filme et voilà, qui t'aide à tourner. Il y a un aspect sécurité où t'as pas de chaîne derrière, donc en fait, s'il se passe quelque chose, c'est ton problème. J'ai eu beaucoup de chance, parce que finalement, on allait quand même à la frontière du Nigeria, on n'a pas eu de soucis, mais quelques temps après mon passage là-bas, il y a eu des attaques dans les zones où j'étais. Il y a eu des soldats, probablement des soldats que j'ai rencontrés, qui sont morts. J'y ai pensé en tout cas d'ailleurs, parce que je les avais trouvés très braves, parce qu'ils n'étaient pas très équipés en plus, les soldats du Nigeria. Mais très très braves. Et donc, quelques temps après, je crois que c'était à Toubou, il y avait une attaque, et je crois qu'il y en avait eu au moins 30, je sais plus. Enfin, pas mal qui étaient décédés.
Ça, c'est qu'en plus, à chaque fois qu'il y a des attaques, il y a beaucoup de morts.
À l'époque, en fait, ouais, ça dépend vraiment, quoi. Maintenant, au niveau de Boko Haram, beaucoup moins en Niger. Ça, c'est... Le problème, c'est que la problématique a changé. Maintenant, c'est plus Boko Haram, c'est... c'est tout le reste du bordel du Mali, enfin, et du Burkina, et voilà. Donc, c'est pas... Et c'est pire, même, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas si c'est pire, je sais pas si on peut dire ça. Quoi qu'il en soit, donc je fais une dizaine de jours là-bas, je ramène des images qui n'étaient même pas très 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 belles en réalité, hein. Parce que le gars que j'avais embauché, je l'avais pas payé très 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 cher, donc du coup il avait pas forcément la meilleure caméra, c'était pas les images les plus nettes et les plus standards France 24. Mais je vais quand même, je prends mon courage demain, je vais voir donc le monsieur, d'ailleurs, qui est mon patron aujourd'hui, qui est en charge donc des reportages et des magazines. Pour qu'il regarde mon reportage, et je me rappelle qu'il me regarde en mode, mais qui es-tu, jeune femme? Je ne connais pas, pour qui travailles-tu? Et en fait, je lui explique un petit peu ce que je fais, et là, tout son visage, son expression commence à changer, il commence à me dire, ok, d'accord, ok, bon, on va regarder. Il regarde mes images, et je pense qu'il a respecté l'initiative.
Le travail.
C'était pas, honnêtement, c'était. Bon, déjà, ils l'ont pris parce qu'ils n'avaient pas de. Ils n'avaient rien fait au Niger, donc c'était du pain béni pour eux. Bon, on a envoyé personne, on a eu quelque chose. Finalement, ça ne nous a rien coûté. Et après, par contre, c'est sûr que les images, je pense qu'on les a prises moins chères que si jamais j'avais eu une très belle qualité vidéo. Après, j'ai fait pas mal d'antennes pour expliquer ce qui s'était passé sur le JTA, sur le débat, tu vois. Donc ça m'a et ça m'a aussi donné, comment dire, ça m'a galvanisé, ça m'a donné un peu le, ça m'a encouragé dans le sens où je me suis dit, peut-être qu'il faut que je fasse plus de reportages, et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut que je reparte vivre. Pas au Niger, forcément, mais que je rentre, je me disais en tout cas en Afrique de l'Ouest. Quoi. Mmh. Et donc, c'est là que je suis allée j'ai déménagé à Abidjan quelques mois après pour. Et j'ai fait pas mal de reportages, c'était. De freelance pour. Je faisais un peu TRT, la télé, tu sais, internationale turque, là. Je faisais un petit peu France 24, je faisais un petit peu Le Point. Et j'avais fait le Burkina, donc il y avait des élections au Burkina, j'avais fait les élections au Bénin. Enfin, il y avait pas mal d'élections cette fin d'année, donc j'avais eu pas mal de boulot. Et donc j'ai fait quelques mois en freelance depuis Abidjan, en voyageant un petit peu dans la sous-région.
C'est aux alentours de 2016.
Je crois que c'est fin 2015, non, 2016. Non, 2015, fin 2015. Ouais. Donc ça, c'était novembre, décembre, je crois que j'ai quitté Paris en septembre 2015. Et donc j'étais à Abidjan de octobre à février à peu près.
Ok. Et enfin il y a deux sujets là qui viennent. On a grignoté le temps, mais c'est pas grave, on va dépasser l'heure. Mais c'est très bien, Aliane, parce que moi du coup j'apprends énormément. Je pense que les gens qui écouteront apprendront énormément. Donc je me limite pas le temps. Il y avait deux sujets. Le premier c'était sur ton retour, parce qu'il y a beaucoup cette problématique là dans notre audience. Enfin, on va dire, qu'est-ce que tu gagnes ou qu'est-ce que tu as l'impression de gagner en rentrant et qu'est-ce que tu perds ? Qu'est-ce que tu as l'impression de perdre ?
Voilà, c'est mon deuxième retour déjà.
D'accord.
J'ai un retour, après je suis partie aux États-Unis, ensuite je suis revenue.
Okay.
Mais bon, les États-Unis c'était un an, donc je pense que je considère pas ça comme un grand départ parce que c'était juste pour un fellowship et je suis revenue juste après. Mais le retour, qu'est-ce que j'y ai gagné ? Honnêtement, déjà au niveau même de mon mental. Disons que j'avais l'impression d'être un peu plus honnête et moins hypocrite en fait. C'est-à-dire que je peux être là à dire oui, tu vois, je suis journaliste, j'ai envie de parler de l'Afrique, mais parce que c'est ce qui m'intéresse. Oui, mais tu. Et ça, c'est peut-être une critique gratuite, hein, mais je pense que quand on est de la diaspora africaine, que ce soit parce qu'on est né, grandi en France ou parce qu'on est allé, on a émigré en France ou ailleurs à partir de ses 18 ans et qu'on y est resté. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, même si tu es africain, si tu restes des années et des années et des années et des années à pas y vivre et même pas y aller en vacances, les choses changent, hein, elles évoluent, elles bougent. Et donc, du coup, je ne dis pas que il faut que tu saches que t'as ton rapport à ce qui se passe, il est peut-être un peu distant. Et donc la réalité, c'est que je me disais, bon, moi, déjà, j'ai toujours eu ce sentiment qu'il fallait quand même que je rentre, même qu'il fallait que j'apporte quelque chose à mon continent. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais
oui, c'est une note.
C'est pas faux. Et donc du coup, je me disais si quelque part la volonté de devenir journaliste était motivée aussi par le fait de raconter l'Afrique peut-être aussi autrement, parce que je voulais aussi que les narratives autour soient un peu plus diverses, un peu plus variées, un peu plus authentiques, un peu plus qu'on parle du mauvais mais qu'on parle aussi du bon, qu'il y ait un peu de tout. Et qu'il fallait que je sois sur place, tout simplement. Donc pour moi, c'était déjà une démarche de sincérité qui était beaucoup plus, qui me permettait d'être en accord avec moi-même et avec mes convictions. Donc ça. Et après, forcément, mon travail, je pense qu'il était, il avait plus de valeur par rapport à ça, parce que quand je suis sur place, même si je suis chez moi, j'ai un autre rapport en fait. C'est qu'à dire que ma vie, mon quotidien, les images que je vois, c'est celle d'ici. Du coup, je suis imprégnée. Donc, mon travail, si mon terrain, le terrain depuis lequel je fais du reportage ou du journalisme, c'est l'Afrique, eh bien, il faut que j'y sois. Donc, c'est ce que je pense.
Pardon ? Valoriser ton travail aussi, peut-être qu'à Paris, ça aurait été beaucoup plus chiant d'avoir.
Ah oui, au-delà de tout ce qui est théorique, je viens de dire. Clairement, oui, parce qu'en réalité, je pense que ça pêchait un petit peu à Paris. Je pense que ça pêchait un petit peu parce que c'est plus compétitif, il faut dire ce qui est. Quand tu as osé, que tu as eu une expérience un peu éclectique comme la mienne et que tu as fait des études et que tu viens en Afrique, tu as été à ton. C'est une bonne et une mauvaise chose parce que c'est la preuve que quelque part finalement il faut qu'on ait un écosystème plus fort et qui permette à plus de journalisme d'éclore, mais et de bien faire leur travail, mais en tout cas tu tires facilement ton épingle du jeu. Alors qu'à Paris, justement, j'avais l'impression d'être noyée, et pourtant j'avais un profil similaire à personne, hein. Clairement, je pense que personne n'avait eu l'enfance que j'avais eue. Personne n'avait. Quand j'étais au moment où j'étais chez France 24, que je travaillais un peu avec le Journal de l'Afrique, la moitié de ceux qui travaillaient sur le Journal de l'Afrique, il y en avait trois qui connaissaient l'Afrique, la vérité. Donc, il n'y avait pas de raison pour que mon profil ne soit pas valorisé. J'avais vécu 18 ans, j'y allais tout le temps. J'avais des connexions, je connaissais des gens, tu vois. Mais tout simplement pas l'endroit où on allait me mettre en valeur parce que je ne peux pas t'expliquer pourquoi ou comment.
Bien sûr, tu l'as fait. Système, quoi. Je suis encore là et je peux voir la même chose.
Ouais, donc quelque part, clairement, ça m'a ouvert des opportunités parce que je suis rentrée et que là... Après, en inconvénient, le problème, c'est que par contre, le paysage médiatique est limité. Donc, tu vois, je travaille ici. Je suis bien contente de travailler ici, mais je travaille pour une chaîne internationale.
Ouais.
Qui est basée en France. Pourquoi ? C'est pas parce que je veux pas travailler pour une chaîne locale. Hein. C'est pas parce que je veux pas travailler pour une chaîne africaine. J'ai travaillé pour Africa News pendant des années. Africa News, pareil, c'était Euronews. Euronews, c'est à Lyon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Africa News est à Lyon. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de travailler pour une chaîne qui est 100% africaine, quel que soit le pays. Mais il faudrait que ça suive à tous les niveaux. Il faudrait qu'il y ait un management qui fonctionne, qu'il y ait des conditions, un écosystème qui fonctionne. Il faudrait que tu puisses faire ton travail correctement. Il faudrait que tu n'aies pas de pression. Et la vérité, c'est qu'on a quand même des pressions au niveau du journalisme dans nos pays. Et quand tu travailles pour une chaîne internationale, tu es un peu plus protégé.
Ouais.
Tu peux... quand tu es journaliste local, c'est autre chose. Hein.
J'imagine, ouais.
C'est pas le même statut.
Et deuxième sujet que je voulais aborder, c'est justement pendant là peut-être, enfin je sais pas si tu as envie d'en parler du contrat que tu as avec France 24, mais pendant que ça a été des piges, c'est un peu précaire comme situation. Est-ce que tu le vois comme une opportunité? Parce que j'avais écouté Tatiana Mosso qui avait parlé du fait qu'elle avait mis hyper longtemps à avoir un CDI.
Écoute, ça c'est la grande, je crois que c'est le problème des journalistes. Je sais pas, je peux pas dire du monde entier, même si j'étais aux États-Unis, je sais que c'est aussi un problème là-bas. Déjà, c'est un métier précaire à plein de niveaux, qui est extrêmement compétitif, mais oui, la pige, c'est précaire. Et le fait est que je connaissais, par exemple, à ITD, des personnes qui étaient pigistes depuis... Et moi, je les regardais genre en mode, oui, moi, je suis pigiste aujourd'hui, mais je pourrais pas faire ce que vous faites pendant 10 ans au même poste. En réalité, tu sais, c'est des personnes qui vont, par exemple, être, je sais pas moi, chef d'édition, d'une émission. Et c'est eux qui sont chef d'aide, par exemple, tous les week-ends de cette émission, mais ils n'ont pas de contrat. Enfin, ils ont un CDD, par exemple. Et donc, on renouvelle leur CDD, mais c'est pas... À un moment donné, il faut bien que tu les fidélises, ça suffit. Mais c'était comme ça. France 24, je ne veux pas trop en parler, parce que bon, c'est un peu compliqué. Et après, il faut dire que... Après, il faut dire que, pour être très honnête, France 24, déjà, je connais moins de l'intérieur, parce que j'ai été très brièvement au siège. Et maintenant, je travaille en tant que correspondant, ça n'a rien à voir. Parce que finalement, on n'est pas dans les histoires de... Moi, en réalité, mon contrat, c'est particulier. C'est-à-dire que je suis la correspondante, l'une des correspondantes de France 24 pour la Côte d'Ivoire, avec mon collègue Samuel Bernard, qui est en gros le deuxième. Et on est donc les correspondants permanents, mais on a été embauchés par une boîte de prod qui travaille avec. Du coup, je suis staffée, mais pas avec France 24. Et la plupart des correspondants ne sont pas staffés. Ils ont pareil des contrats soit de pige, soit à travers une boîte de prod, soit à travers des choses comme ça. Après, ça va dépendre de la boîte de prod avec laquelle tu travailles. Moi, je suis plutôt bien lotie, je ne me plains pas. Mais ça dépend. Tu vois, t'as des boîtes de prod qui traitent très bien leurs journalistes, t'en as qui traitent très mal. Tu peux être à la pige et bien gagner ta vie parce que tu as plusieurs médias avec lesquels tu travailles. Et donc, du coup, ça te permet de. Moi, j'ai fait ça pendant quelques temps, ça allait, hein. Mais il y avait la précarité au-delà du salaire, c'est vraiment le fait que tu peux travailler. Il y a des moments où tu travailles et puis il y a des moments où il n'y a vraiment rien qui se passe, par exemple. Tu es sur le terrain et là, tu as peur, quoi.
Ouais.
Tu te dis, OK, d'accord, mais là, je fais quoi? Parce qu'en réalité, c'est ça le news aussi. Soit il y en a et tu travailles, soit il n'y en a pas. C'est autre chose, sauf si tu fais du magazine, c'est autre chose. Mais je pense que si je conseillais à des journalistes plus jeunes de ne pas rentrer dans le cycle pigiste, ce serait un peu leur mentir sur le fait que c'est un peu, je ne dis pas que c'est un passage obligé, mais à moins que les choses, je suis un petit peu déconnectée de ce qui se passe à Paris par exemple, mais à moins que c'est beaucoup changé depuis que moi j'y étais, que je travaillais, je pense que c'est un petit peu un passage obligé. Après, il faut peut-être pas s'enfermer dessus, il faut dedans, pardon. Il faut peut-être tenter de voyager, aller ailleurs pour voir ce qui se passe ailleurs. Je pense que les gens font pas assez ça. Vraiment. Après, honnêtement, je sais que on n'est pas tous forcément prédisposés à faire ça. Il n'y a pas forcément. Il y a plein de critères, de conditions qui entrent en ligne de compte qui font que tu n'as pas envie de partir d'un pays pour t'installer dans un autre. Mais je sais que ça peut ouvrir des portes.
Ouais.
Et puis voir d'autres systèmes ou d'autres paysages médiatiques. Quoi.
Ok.
Voilà.
Top. Ça marche. Bah, merci beaucoup.
Bah,
on va arriver sur les.
Vraiment.
Pardon ?
J'ai beaucoup, beaucoup parlé.
Mais t'as raison, je dis, c'est pour toi que les gens sont là. Donc.
Dis-moi. Ouais, on passe aux questions rituelles.
Ouais, je vais juste un peu parler aussi du journalisme dans nos pays d'Afrique, mais je sais pas. Enfin, tu l'as un peu évoqué, le fait d'avoir des pressions. Est-ce que tu as un petit mot. Ah non, enfin, il y a ça. Et on a un peu parlé aussi de ton engagement, donc du coup, avec les femmes d'ici. Mais est-ce que tu as un engagement un peu plus global sur la situation des femmes dans le métier de journaliste, qu'on met dans des. De façon un peu plus globale, j'ai vu un article que tu avais fait sur les violences faites aux femmes.
Ouais.
Est-ce que tu veux nous en parler un peu avant d'aller sur nos questions rituelles?
Alors d'abord, tu veux que je parle de. Qu'est-ce que tu m'as dit avant?
Ouais, le journalisme en Afrique, quoi, motivé. Je pense que 100% des personnes qui vont nous écouter, qui sont intéressées par le journalisme, vont le faire soit entre la France et l'Europe, soit directement entre la France et l'Europe, entre la France et l'Afrique, soit directement en Afrique. Donc pour qu'ils puissent se projeter un peu et savoir un peu.
Alors il faut j'aime être sincère, il faut être très sincère sur cette question-là. Je ne sais pas si tu as eu Paola Audrey sur cette émission ou tu.
Encore, mais.
Pas encore, j'aimerais bien. Ouais. Il faudrait, elle est géniale. Ouais. Mais elle le dit très bien, elle le dit avec beaucoup de candeur et d'honnêteté, justement, et je vais abonder dans son sens. Il est extrêmement, extrêmement, extrêmement dur de faire du journalisme. Comme on aimerait, c'est-à-dire investigation, d'enquête, qui parle des réels problèmes des gens, qui peut évoquer aussi des scandales qui concernent par exemple les hautes couches de l'appareil décisionnel par exemple, dans nos pays. Je ne veux pas faire de généralité, ça dépend vraiment, ça varie d'un pays à l'autre, mais globalement, c'est pas
top.
On protège pas assez les journalistes par rapport à ça. Il y a beaucoup trop de précarité au niveau des journalistes en Afrique, compte tenu du fait qu'on gagne pas très bien sa vie dans ce domaine, qui va faire que même en réalité, si tu veux être un journaliste intègre et indépendant et faire un peu ta vie, tu peux facilement tomber dans le piège des enveloppes jaunes, par exemple.
Bien sûr.
Donc, il faut savoir ça avant de venir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je dis, moi, j'ai été journaliste indépendante. Ma vocation, c'est de revenir au journalisme indépendant encore un peu plus tard dans ma carrière, c'est-à-dire à travers différents médiums. Aujourd'hui, il y a les nouveaux médias, il y a ce que tu fais, les podcasts, il y a plein de choses. J'en ai fait un petit peu aussi. Pas un podcast, mais des sortes de. Comment dire, du
Beyond the Noise.
Beyond the Noise, par exemple. Et ça me botte parce que je fais comme je veux et c'est cool. Mais après, si tu veux travailler dans le système, il faut savoir qu'il y aura peut-être des moments où il faudra faire des compromis et que tu ne seras pas autant protégé dans nos contextes qu'ailleurs, à moins de travailler pour une chaîne internationale. Et là, c'est un peu plus compétitif. Et puis, bon, ça vient avec d'autres contraintes qui sont peut-être le regard qui n'est pas le même que le tien. Et puis, finalement, il y a aussi le fait qu'ils sont un peu déconnectés là où ils sont là-bas. Et donc, tu dois toujours un peu leur rappeler que c'est toi qui es sur le terrain, c'est toi qui raconte l'histoire, c'est ton point de vue qui a finalement plus de valeur. Donc c'est vrai que c'est un dilemme. Tu vois, je pense cette question de est-ce qu'il faut travailler depuis le continent ou est-ce qu'il faut travailler plutôt depuis. Et les deux choix sont à mon avis à envisager et à mais avec tu vois avec beaucoup de il faut être pragmatique et bien regarder les choses clairement. Je pense que en Afrique il y a beaucoup de choses à faire encore. C'est-à-dire qu'on peut évoluer. J'espère qu'on va arriver à un moment donné où on aura des vrais médias indépendants et assez de moyens dans ces médias indépendants, que ce soit la presse écrite, même si, bon, la presse écrite, malheureusement, c'est plus trop l'âge de la presse écrite, mais ou web ou télé, où on peut vraiment s'exprimer. Et tu n'as pas l'impression que quand tu lis, par exemple, la presse ivoirienne, ça sort soit le pro-gouvernement, soit anti-gouvernement, dès que tu lis le titre de
c'est,
tu vois, et que ce soit beaucoup plus, enfin voilà, qui est ce qu'on peut voir dans d'autres pays où le journalisme est plus sophistiqué, tout simplement.
Ouais. Sur les nouveaux modèles économiques, enfin c'est sûr que là la presse est écrite comme audiovisuel à un tournant, à la fois sur ces modèles économiques donc publicitaires fondamentaux qui sont en train de bouger avec les réseaux sociaux, avec des Combini, des Brut qui arrivent, et aussi sur tout ce qui est fake news. Comment est-ce que c'est quoi ta vision un peu dessus? Est-ce que
écoute, tu vois par exemple Beyond the Noise, c'est venu justement de cette pour moi, d'une grande frustration autour de tout ce qui est fake news. Et de tout ce qui est frustration qui n'a pas du tout été, apaisée depuis, parce qu'au contraire, j'ai l'impression que les choses ne font que s'empirer. Et ça, ce n'est pas vraiment un problème américain, c'est un problème purement international et très, très, très réseaux sociaux. Mais oui, en fait, on est vraiment à un tournant depuis quelques années où déjà que les journalistes n'ont pas forcément bonne presse, ironiquement, on n'a pas bonne réputation, on n'a pas confiance en nous, à raison dans une certaine mesure, pas forcément tout le temps à raison, mais pour autant c'est un métier qui quand il est bien fait permet justement la vérification, l'authenticité, il y a le fact-checking, il y a tout ce qui vérifie les... c'est ce qu'on est censé faire, hein. On est là vraiment pour permettre de donner l'information la plus vraie qui soit et l'exposer sans donner d'instructions au public sur la ligne, voilà, sur l'opinion qu'il doit avoir après. Mais je veux dire, ça, c'est un métier. Et je ne dis pas que le journalisme citoyen n'est pas une bonne chose, c'est une très bonne chose. C'est bien d'avoir des observateurs, c'est bien d'avoir des personnes qui ont des téléphones, qui peuvent tout de suite, en temps réel, mettre quelque chose en ligne et ça devient viral. Et c'est comme ça parfois d'ailleurs que les médias reprennent l'info. Heureusement que ça existe, c'est génial. Mais en même temps, bah, le gros... travers de ça, c'est aussi que la manipulation est juste, mais tellement importante et elle est tellement rapide, elle se fait, et y a tellement de théories conspirationnistes, et j'en vois tellement ici, j'en vois tellement ailleurs, et ça, c'est vrai que c'est, en tant que journaliste, quelqu'un qui, en tout cas, je tiens ma déontologie, je tiens l'éthique qui entoure ce métier, et j'y crois. C'est le genre de choses qui me... Et c'est pour ça que je me dis que c'est important, ce métier. C'est pas pour rien, parce que c'est là pour ça, finalement. C'est un contre-pouvoir. Et aujourd'hui, finalement, c'est pas qu'un contre-pouvoir ou un quatrième pouvoir que face aux politiques. C'est ça aussi, c'est ça, bien sûr, mais c'est aussi face à tout ce qui se passe sur les internets, comme on dit, où il y a aucun... où les gens peuvent faire beaucoup de tort en manipulant, en mettant des vidéos qui sont pas des vraies vidéos, ou en racontant des histoires, en fabriquant des trucs, et c'est pour ça que c'est important qu'on existe encore, je pense. Je ne sais pas si du tout c'était ta question, mais par rapport aux modèles économiques, moi je sais que c'est la grande question que je me pose depuis des années, parce que j'ai envie d'être en indépendant, j'ai envie de pouvoir faire du Beyond the Noise à temps plein, et pas, mais il faut gagner sa vie. Ouais. Et alors c'est quoi les modèles économiques, ça faudra que j'en parle pas l'adresse, tu vois, qui permettent justement à quelqu'un de faire de la création de contenu, quel que soit le domaine, mais alors dans le journalisme en particulier, et d'être rémunéré comme il se doit, parce que c'est un travail, et donc tout travail mérite salaire, et de manière durable, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément envie de payer pour avoir leur news. Mais comment est-ce que les gens se rémunèrent? J'ai pas la réponse. Je pense que le podcast fait partie de ces avenues qui sont exploitables, qui sont peut-être même plus viables que la vidéo, qui, pour moi, par exemple, sur le continent africain, peut beaucoup donner. Parce qu'on a la culture de la radio, parce qu'on aime ça, on aime écouter du contenu, parce qu'on n'a pas forcément le temps de regarder. Mais après, voilà, pour développer les modèles, je pense qu'il va vraiment falloir que, ben moi, à mon niveau, et même que d'autres journalistes se penchent vraiment là-dessus, parce qu'il y a des choses à faire.
Carrément, ouais. Bah, moi, je suis pas du tout journaliste, hein. Je ne prétends pas, mais avec le podcast et une bonne cinquantaine d'interviews, je commence à réfléchir à savoir... Est-ce que je fais graphiquement?
Bah oui.
Tout
bah.
Même.
Bah oui.
Parce qu'à un moment donné, les deux modèles que j'identifie, c'est soit la publicité, soit du paiement direct. C'est de mettre à contribution directement les éditeurs.
Tout simplement. Moi, je sais que quand j'écoute un podcast, ça ne me dérange pas d'avoir de la pub. perso, parce que j'ai envie de l'écouter. Je suis quelqu'un, par exemple, pour le, en termes de news, je consomme plus de podcasts qu'autre chose en ce moment. Enfin, depuis un an ou deux, j'en écoute des tonnes en fonction de si je veux écouter des news des États-Unis, de France, de ce que tu veux. Et ça ne me dérange pas du tout d'avoir de la pub tant que le contenu est bon. Donc, tant que c'est de la valeur ajoutée, que ça apporte quelque chose. Pour revenir à la question des femmes, brièvement, parce que je sais qu'on on pète les...
C'est pas grave.
Écoute, comme je t'ai dit, je pense que pour moi, c'était... j'ai toujours eu à cœur de parler des questions qui ont trait aux femmes parce que j'en suis une, parce que j'ai entourée de femmes dans ma famille, j'ai beaucoup d'amis femmes, j'ai toujours été très, 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 tu vois, tout ce qui, autour de tout ce qui va être sisterhood et tout ce qui concerne les femmes. Et puis, parce que j'ai beaucoup de femmes battantes qui m'ont inspirée, qui m'ont permis finalement, même si c'est indirectement, d'arriver où je suis. Et que, encore une fois, j'aime pas faire des généralités sur l'Afrique, mais on a encore trop de trucs, trop de problèmes, de pesanteur sociale et de pesanteur culturelle qui, comme par hasard, arrangent les hommes, mais pas les femmes. Et du coup, qui, pour moi, relève du patriarcat, même si on va toujours te dire, oui, c'est toujours en gros, c'est des punchlines, le patriarcat, bon, c'est une réalité, c'est pas une punchline. Ayant grandi dans une société un peu conservatrice, même si moi ma famille n'est pas particulièrement conservatrice, quand même musulmane, Afrique de l'Ouest, Sahel, il y a beaucoup de conservatisme, il y a beaucoup de pression qu'on exerce sur les femmes ou de limitations qu'on pose aux femmes, et ça me fatigue parce que moi j'ai jamais été comme ça, je suis super progressiste, peut-être l'ouverture au monde, j'en sais rien. Et donc, du coup, c'est sûr que ça, c'est des questions qui m'ont toujours animée. Le fait d'avoir fait Les Femmes d'ici, ça forcément m'a permis de rechercher en profondeur certains sujets, tu vois. Et donc, forcément, maintenant, ça m'anime encore plus, quoi. Et donc, j'ai d'ailleurs plusieurs projets en ce sens-là. Après, moi, j'aime pas me précipiter pour tout ce qui va être... mon métier, c'est journaliste, c'est pas activiste. J'aime bien, je le dis souvent. J'aime pas me précipiter. Si je veux faire quelque chose en dehors de mon métier qui va se relever justement de l'associatif ou d'aider ou du mentoring, ce que tu veux, je veux y réfléchir vraiment, le faire comme je veux, comme j'ai le temps, comme je peux. Mais mon métier, c'est autre chose. Mon métier, je vais pas te dire aujourd'hui que j'ai envie de faire du journalisme pour les femmes non plus. C'est pas... Non, j'ai envie de raconter des histoires qui concernent tout le monde. Maintenant, c'est sûr que les causes des femmes me touchent beaucoup, mais je suis pas devenue journaliste spécialisée sur les questions des femmes. Ouais.
J'ai encore plein de questions, mais faut qu'on y aille. Et avant d'aller sur les questions rudées, ça fait trois fois que je dis ça, mais je le redis encore. Là étant, enfin déjà avec la télé d'ici, mais avec avant African News ou Hero News, et maintenant avec France 24. Dans une petite ville comme Abidjan, comment tu gères ça là? Enfin, c'est une célébrité quand même, il y a quand même, je pense que tu dois être dans la rue, tu dois peut-être être un peu
simple. De temps en temps, c'est vrai. Déjà un petit peu African News, c'était même, j'aurais dit, un peu pire parce que j'étais à Pointe-Noire, c'est une toute petite ville. Et comme je présentais et que ma tête était à l'antenne tous les matins, du coup, j'avais des personnes qui venaient me voir. Mais je prends ça comme un compliment. En général, c'est rien de... J'ai beaucoup de messages sur Instagram ou sur Twitter de jeunes personnes qui me disent « Ah, comment t'as fait ça? C'est génial, machin. » Donc, un peu de mentoring, j'essaie de répondre.
Tu pourras leur dire maintenant d'aller écouter Choose Your
Mentor. C'est tout simple, en fait. Voilà, il y aura certaines réponses. Après, il y a parfois, oui, à Abidjan... En plus, je pense que quand on est correspondant France 24 à Abidjan, on est vite... reconnaissable parce que bon voilà, on traite beaucoup de la télévision quand même.
Je crois que c'est la chaîne la plus écoutée du pays.
Complètement, ouais, donc ça va très vite. Donc effectivement, les gens me disent ah, mais je t'ai vu, ou ça arrive. Mais comment je le gère, je crois que je me suis un petit peu habituée parce que ça fait un petit moment que je fais de l'antenne maintenant. Enfin là, j'en fais plus d'ailleurs, mais je me suis un petit peu habituée. Le seul truc qui peut être un petit peu fatigant de temps en temps, c'est les sollicitations style Facebook où les gens veulent absolument. Ça ne me dérange pas que tu me sollicites pour me demander des conseils. Ça, c'est complètement normal. Mais il y a des attentes du style... Ça, c'est les hommes. pour être honnête. Du style, est-ce qu'on peut faire connaissance? Et quand tu réponds pas, ça t'envoie des... Et en fait, je crois que j'ai fait l'erreur il y a très longtemps de mettre un de mes mails ou numéro de téléphone, je sais plus. Et j'arrive pas à l'enlever. Et donc, je continue à recevoir des mails de X ou Y personnes, des gens que je connais pas, mais tout le temps. Et ça me fatigue. C'est pas la fin du monde. Mais je veux dire, c'est assez... Et quand c'est toujours les mêmes personnes qui te... Parfois aussi, je reçois des appels WhatsApp. Genre, sur mon téléphone, je me dis, mais c'est quoi ça? Genre, et après, si j'ai l'audace de dire, pardon, mais non, en fait, m'appelez pas. Ah oui, c'est pas gentil, je veux juste... Non, il y a des limites, faut pas violer la vie privée
des gens.
C'est tout. Mais à part ça, c'est des petits incidents isolés. Hein, globalement, c'est pas... Je suis pas non plus...
Ça viendra, Oprah Winfrey, ça viendra.
Je suis pas non plus Oprah Winfrey, exactement. Mais sinon, j'ai pas. Qu'est-ce que tu m'avais demandé d'autre?
Non, c'était ça. C'était savoir comment tu le gérais. Est-ce que c'était dérangeant ou est-ce que tu...
Non, mais je le vois pas du tout comme quelque chose de dérangeant, surtout quand c'est dans la rue, un compliment. J'ai rencontré il y a pas longtemps une personne qui me disait, ah, mais je te suis depuis African News, genre 5 ans. J'ai vu que t'es après aller chez NCI, maintenant t'es chez France 24, et j'ai trouvé ça super. Toujours, c'était... Je me dis, ah, c'est sympa. Elle me dit, non, je te suis parce que j'aime beaucoup comment tu parles, comment tu t'exprimes, ce que tu dégages et ta façon de faire ton travail. Et je pense que c'est... Pour moi, c'est ça le compliment. C'est pas juste tu passes à la télé, c'est cool. C'est plus le... Ça veut dire que t'apprécies... Il y a quelque chose que je fais de bien. C'est comme ça que je le vois.
Voilà. C'est clair. Bon, alors, on va finir par y arriver à ces questions rituelles.
On va y arriver. Alors, la première question, elle est vraiment... C'est dur, hein.
Du coup, je la redis pour que les gens puissent l'avoir. Si tu avais une heure à passer avec une personne qui te motive et enfin qui t'inspire ou pas d'ailleurs, hein, quelqu'un que tu, enfin je sais pas, quelqu'un qui t'a envie de dire quelque chose, qu'est-ce que ça serait?
Alors, en 2019, j'ai eu, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais j'ai eu la chance d'être sélectionnée, c'est pour un fellowship pour aller à Harvard pendant un an. C'était une magnifique expérience parce que tu as accès à des personnes, tu as tellement tout le monde qui va là-bas, que ce soit genre les professeurs en eux-mêmes, les chercheurs, les journalistes, et en plus les stars qui viennent de temps en temps parce que bon, c'est Harvard et qui vont faire venir je sais pas, un acteur ou un réalisateur, ce que tu veux. Et donc j'ai rencontré déjà 2-3 professeurs très éminents que je respectais énormément, un réalisateur de cinéma que je respectais énormément. Mais par contre, moi, par exemple, ce que je n'ai pas dit pendant l'interview, c'est que... si je te cite les noms des personnes que j'ai rencontrées, je pense que ça ne parlera pas beaucoup à un public francophone. Par exemple, j'ai rencontré Teju Cole, j'ai rencontré Tennessee Coates, qui est un écrivain afro-américain dont je respecte énormément le travail. Rencontrer, c'est un grand mot, mais je l'ai au moins un peu parlé. Une autre chose qui m'a toujours beaucoup plu en tant que gamine, c'était quand j'étais plus jeune, c'était le cinéma. J'adore le cinéma. Et du coup, je regardais, quand j'étais très jeune, je regardais une émission qui s'appelait Inside the Actor's Studio. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et c'était donc en gros un journaliste spécialisé dans le cinéma qui interviewait toutes sortes de réalisateurs, scénaristes, acteurs américains. Il faisait d'ailleurs une interview un peu à la Bernard Pivot, comme celle que tu es en train de faire. Et il s'appelait Ted Lipton. Et ça faisait partie des questions, d'ailleurs, qui est-ce que tu aimerais rencontrer? Et moi, comme il posait ces questions-là à la fin de l'interview, donc j'avais réfléchi à ça. Et dedans, il y en a plusieurs. Al Pacino.
Okay.
Juste parce que c'est pour moi une des icônes du cinéma, même si aujourd'hui, bon, il est malheureusement un peu... pas forcément les meilleurs choix, bon, c'est la fin, on va dire, mais juste parce qu'il m'a tellement touchée dans beaucoup de films que du coup, je me suis dit, ça doit être intéressant que de se poser avec Al Pacino ou Quentin Tarantino pour avoir une conversation, parce qu'ils sont complètement barrés, ces gars-là. Okay. Et puis, Angela Davis, qui est donc une activiste pour les droits civils. Exactement. Et puis, une autre personne décédée que j'aurais beaucoup aimé rencontrer parce que sa musique m'a toujours beaucoup touchée, c'était Aretha Franklin.
Ok.
Après, c'est pas du tout... Il y en a d'autres, il y en a des tonnes. Il y a aussi Mandela et Thabo Mbeki, enfin, tu vois. Il y a plein de... Mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les... Je suis quand même très fascinée par l'art et par tout ce qui est créateur et artiste et acteur. Et donc, Je pense que j'aimerais, en tant que journaliste, ce serait plutôt des gens à qui je parlerais de leur art. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Plutôt que des hommes politiques ou des, plutôt des écrivains ou des artistes. Voilà.
Ok. Top.
J'ai pas pu répondre à la question. Je crois que je vais réfléchir cette nuit et j'aurai d'autres noms qui vont venir en tête.
Bah, tu me dis, tu me diras sur WhatsApp et je les rajouterai dans, dans la présentation de l'épisode. Et si tu avais un super pouvoir et que tu pouvais changer quelque chose, régler un problème global, local, est-ce que tu as quelque chose en tête?
Avant, je t'aurais dit... Enfin, avant. Il y a quelque temps, je t'aurais dit quelque chose du style... c'est la capacité... En gros, une sorte de pouvoir d'abondance, c'est-à-dire... là où il y a de la famine, tu apporterais de la nourriture, par exemple, ou l'abondance de l'eau, ce que tu veux. Aujourd'hui, j'aimerais, je pense que ces derniers temps, et ça m'anime, voire ça m'angoisse beaucoup, depuis allez, un an, six mois encore plus, tout ce qui concerne le climat. Parce qu'en vrai, je pense réellement qu'on est en train de, qu'on est vraiment en train de se s'auto-saboter et c'est incroyable ce qu'on se fait à nous-mêmes. Et, ça, pour le coup, ça dépasse l'Afrique, c'est un truc, c'est mondial. Et en plus, quand tu as des conversations parfois avec des personnes qui continuent à penser « bon, c'est pas bien grave, ça ne nous concerne pas », c'est assez lunaire. Donc moi, j'aimerais, je sais pas comment ça se matérialiserait, mais en fait, juste qu'on se rende compte qu'on est en train de se gâcher, en fait, et de se gâcher et de gâcher la vie de nos générations, des générations futures, et que ça va devenir ces catastrophes qu'on voit là... presque, je dirais pas quotidiennement, mais qui se multiplient et qui sont de plus en plus fréquentes. Enfin, comme une sorte de boule, tu sais, qui permettent à tout le monde de voir l'avenir et que ça réveille un peu. Parce que je trouve que l'humanité est très, très bête, en fait. Enfin, comment dire, entre l'opinion publique mondiale et l'homme en général, on se comporte de manière très absurde.
Okay.
Bon, pas, et après, c'est même pas l'individu qui a pas de pouvoir, hein, finalement. C'est ceux qui ont, c'est les décideurs. Mmh. Et alors qu'on est une vraie boule, tu sais, de. C'est quoi, comment on appelle ça? Les voyants.
Magique, une boule magique, oui.
Bon, y a un autre mot, mais je ne me reviens pas. Mais... Ouais, une boule magique pour voir ce qui nous arriverait. Je suis même pas sûre que ça nous ferait changer de comportement, mais qu'il y a un réveil, quoi, des consciences. Un réel réveil des consciences.
C'est clair, c'est nos biais. Mais bon, je ne sais pas comment.
Non, mais là, je pense que en fait, le truc, c'est que ce qui est triste, c'est que c'est mort, je crois.
C'est ce que beaucoup de gens disent, en tout cas pour les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'on a déjà le. Enfin, tout ce qui est en train de se
Là, c'est parti pour 15 ans déjà de répercussions. Et puis, il faut changer la trajectoire maintenant pour qu'il y ait moins d'effets. Enfin, qu'il y ait des effets.
Après 15 ans.
Après 15 ans. Donc, bon. Et puis, bon, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qui se passe en ce moment.
C'est clair. Ça fera une autre émission, carrément. et est-ce que tu as une référence. Ah, ben, enfin, j'allais te sauter cette question, mais on va y aller quand même. C'est pas grave. Si tu pouvais murmurer à l'oreille de la jeune Anan au moment de son bac ou enfin voilà à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dirais pour je sais pas accélérer les choses ou changer un peu de trajectoire ou pas du tout d'ailleurs.
Non, je lui dirais pas de changer de trajectoire. Honnêtement, je suis pas quelqu'un de. Je pense que j'ai rien fait de manière parfaite du tout. Je pense que personne fait rien de manière parfaite. Mais je suis absolument pas. J'ai pas honte de mon parcours. J'en suis assez fière. Et donc, je lui dirais juste, tu vas t'inquiéter très souvent, c'est normal, mais ça va aller. Ce serait plus pour me rassurer, parce que je sais qu'il y a eu des grands moments d'incertitude.
Bien sûr.
Et je dis pas qu'il y en a pas encore, il y en a encore. Hein, je n'ai pas du tout atteint les niveaux ou toutes les aspirations que j'ai, mais je suis beaucoup moins inquiète aujourd'hui. Et donc, je dirais à la personne qui était beaucoup moins, qui avait moins confiance en elle, moins, qui avait l'impression que les choses n'allaient pas se passer... Enfin, que j'avais l'impression que j'avais pas de plan et que ça allait pas se passer comme je voulais et je savais pas comment mettre en place les choses pour aller vers un certain objectif. Mais finalement, les choses sont venues un peu à moi aussi. Donc, trust the process.
Ok. Et la DR des DR, d'ailleurs, il faut que je la regarde. Pardon.
Référence culturelle.
Si tu avais une référence culturelle. Quelque chose à nous partager, un théâtre, un film, un livre. Moi, j'aime beaucoup les livres, donc si tu peux en mettre un ou deux.
D'accord, super. Alors, un bouquin. Un livre que j'ai beaucoup aimé. Je suis vachement... Enfin, moi, je me donne un peu comme... contrainte, pas contrainte, c'est pas une contrainte, je préfère, j'ai tendance à lire, à préférer lire les écrivains afro-descendants ou africains. Donc, je lis pas mal, tu sais, tous les chants de la négritude, des choses comme ça, bon, ça c'est des sujets qui me parlent. Je te recommanderais quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, mais qui, pour le coup, est un écrivain, photographe, artiste, visuel, ce que tu veux, nigérian, qui s'appelle Teju Cole, que j'ai rencontré d'ailleurs à Rafa.
Ok.
À qui j'ai fait une superbe interview, j'ai adoré. Et qui a écrit. Attends, je rappelle les bouquins là. Il a écrit plusieurs bouquins, mais. Days for the Thief.
Banane va chercher le bouquin là, c'est pour ça que vous l'entendez de plus loin.
Il y a celui-là, Open City. Et puis il y a aussi. Okay. En anglais, c'est A Days for the Thief. Et donc, je ne sais plus comment le dire en. Je ne sais plus comment il dit en français. Donc, Teju Cole déjà. Okay. Très très bel écrivain. Et puis bon, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont une certaine fascination pour le Nigeria, je trouve que c'est très bien. Il écrit très bien sur les ghosts. Okay. Et après, Ta-Nehisi Coates, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a écrit Between the World and Me. Qui d'autre? C'est que des écrivains anglophones.
Non, mais c'est bien.
Et puis qui d'autre? Ah oui, je suis une grande fan de Toni Morrison, qui est aussi une écrivaine africaine-américaine, qui est décédée d'ailleurs il y a 2 ans, je crois maintenant. Et j'ai acheté son bouquin il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Soula, qui est bien. Mais en réalité, tout ce qu'elle écrit est bon. Mais Soula, c'est une très belle histoire.
Ok, ça marche.
Donc, Soula, Open City, Every Day is for the Thief. Et puis, okay. J'ai dit quoi encore? J'ai oublié. Je t'ai dit Between the World and Me, je crois.
Ok. Mais de Teju Cole aussi, toujours le
troisième. Between the World and Me, c'est Ta-Nehisi Coates.
Ta-Nehisi Coates, ok. Normalement, c'est tout bon, mais je vais quand même te demander encore, est-ce que tu as des mentors? Est-ce que tu as des personnes qui soient des mentors avec qui tu discutes au jour le, enfin, quand tu peux, ou même des mentors, des Oprah, quoi, tu sais, la lumière.
Donc, pas forcément des personnes à qui je parle, mais des personnes que j'admire ou que je. Ponctuellement, on va dire que par exemple, une personne dont je respecte beaucoup le travail et à qui je discute de temps en temps, si jamais j'ai besoin de conseils, c'est Tatiana Mosso que tu as évoquée. Parce que je trouve que c'est une femme très intelligente qui fait de très belles choses aujourd'hui dans le journalisme, notamment tout ce qui concerne la formation, ce que j'aimerais beaucoup faire. Enfin, c'est-à-dire, quelque part aussi, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait qu'on forme davantage, qu'on équipe davantage les journalistes locaux et tout. Donc, Tatiana Mosso, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes mentors aujourd'hui ou des personnes vers qui je vais me tourner quand j'ai... C'est des personnes qui m'ont inspirée pendant mon fellowship. On n'en a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'était genre une des plus belles expériences humaines et professionnelles de ma vie, parce que j'étais entourée de journalistes de plein de pays différents et qui étaient tous aussi impressionnants les uns que les autres. Pas forcément connus du grand public, mais des grandes pointures. Et c'est quand même assez exceptionnel d'être aussi proche de personnes comme ça. Et donc, j'ai envie de dire toute ma classe. parce que, c'est vraiment, ça dépend du sujet, quoi. Je vais appeler un tel pour, par exemple, je ne sais pas trop quoi faire par rapport à ça. Ou alors, je vais juste lire leur travail. Et dans une d'entre elles qui est juste... Elle, c'est une journaliste qui s'appelle Rania Abouzaïd et qui écrit beaucoup pour Nat Geo, pour le Time, pour New Yorker. Elle écrit pour plein de... Elle est libanaise d'origine, qui a grandi en Australie. Elle a écrit un bouquin sur la Syrie. Qui est très beau aussi, qu'il faut lire, qui s'appelle... Ah, faut que je le retrouve, je te le dirai, j'ai oublié le nom. Et c'est juste une... En fait, elle a une... Je la respecte parce que non seulement c'est une journaliste qui est juste une très très bonne journaliste, comme il y en a peu, qui sait raconter les histoires des autres, enfin, je sais pas, de manière tellement sincère, candide, mais sans condescendance, sans c'est effortless un peu. Mais au-delà de ça, elle a une humilité. Et je te jure, dans ce métier, ça court pas les rues, les gens humides, humbles. Au contraire, c'est genre plein d'ego, de gens qui se la racontent pour pas grand chose ou qui se croient supérieurs aux autres parce qu'ils ont écrit un bouquin ou fait ça aussi. Et juste une humilité, elle va te faire sentir mal parce qu'en fait, elle se met jamais en avant. C'est-à-dire le fait d'être en journaliste, pour elle, elle estime qu'elle doit toujours s'extraire. tu vois, et que ça, son ressenti par rapport aux situations ne compte pas. Si elle doit se mettre en danger, c'est son travail. Et elle ne voit pas ça comme quelque chose d'héroïque. C'est contre son métier. Et je ne te dis pas que je vais être comme ça. On a tous notre personnalité, on est tous différents. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je respecte énormément. Et donc, du coup, c'est des traits de caractère. Quelque part, je pense qu'avec l'âge, j'admire de plus en plus les personnes que les... Plus même que les accomplissements, tu vois. C'est la façon dont tu as fait les choses. Et ce que tu laisses comme empreinte chez les gens. Et je pense qu'elle laisse de belles empreintes chez les gens.
Excellent.
Bon, voilà.
Je vais pas terminer l'épisode sans te demander ce que tu penses de The Newsroom. Tu as regardé ou pas
la série? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de travail pour cette série. Écoute, je regarde déjà toutes les séries qui concernent le journalisme et la télé. Ouais. Et tous les films qui concernent le journalisme et la télé. Par exemple, je regarde The Morning Show, par exemple, qui n'est pas ouf, mais je le regarde quand même. Enfin non, si, c'est plutôt bien, mais c'est un peu trop. C'est vrai que c'est un peu mélodramatique, un peu soap opera, mais c'est quand même, ça se regarde. Et The Newsroom, c'était une de mes séries préférées. D'ailleurs, à l'époque, j'étais en école de journalisme, je crois, quand je regardais ça.
J'ai découvert plus tard et ça m'a donné envie de faire ce métier, de voir Will McAvoy et toute la déontologie qui était derrière, toutes les questions éthiques qui se posaient sur... Comment on traite un sujet? Est-ce qu'on le balance comme ça à la gueule de tout le monde? Ou est-ce qu'on le retraite? C'est vraiment très, très...
C'était bien de l'évoquer parce que je pense qu'encore une fois, les gens qui... Enfin, quand t'es pas journaliste, tu te rends pas compte qu'il y a tous ces questionnements. Mais en réalité, c'est Hollywood aussi. Hein. Ils mettent ces questionnements en avant parce que c'est une série qu'il faut rendre le truc... tu vois, c'est romancé aussi. Je suis désolée, on va penser que je ramène Harvard sur le tapis parce que je vais me la péter, mais vraiment pas. En plus, je le dis, j'en parle rarement. Mais la raison pour laquelle j'ai adoré aussi mon expérience là-bas, parce que ce n'est pas vraiment Harvard, c'est Nieman, c'est vraiment un fellowship pour les journalistes. Et d'ailleurs, les journalistes qui un jour ont envie de faire un fellowship parce qu'ils ont envie de réfléchir à où ils ont envie de prendre, quelle direction ils ont envie de prendre dans leur carrière, je recommande cette...
Ils peuvent postuler ou c'est...
Ouais. Non, tu postules. Tu postules, c'est compétitif, mais tu postules.
Okay.
Mais en fait, c'était vraiment en fait, ce qu'on a fait pendant... pas un an, parce qu'après il y a eu le Covid, du coup on est passé en remote, mais quand même, oui, un an, c'est qu'on a vraiment parlé de journalisme de cette manière-là. C'était c'est quoi le journalisme, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on fait notre métier mieux, c'est quoi la déontologie, c'est quoi être photographe de guerre, par exemple, c'est quoi rendre la dignité aux gens que tu prends en photo. Tu vois, je veux dire, c'est quoi... Enfin, vraiment des vraies questions existentielles qui nous animent, quoi, qui nous parfois torturent, parce que c'est un métier qui est très beau, mais qui peut être très dur. Et puis, c'est quoi traiter d'un sujet dur et après passer à autre chose? Comme s'il n'y avait rien eu quand tu vas, par exemple, couvrir une catastrophe naturelle ou, je ne sais pas moi, une attaque terroriste et que le lendemain, tu dois passer à une autre actu. Qu'est-ce que ça a comme impact sur toi? Qu'est-ce que ça dit de toi? Parce que tu as des personnes qui arrivent à s'en défaire très facilement et tu en as qui n'arrivent pas. Enfin, c'était vraiment des... Et c'est ce qui crée un sorte de vrai lien entre nous, c'est qu'on en parle ensemble parce que quelque part, c'est... Et je trouve ça dommage quand on est journaliste, c'est qu'on se pose pas ce genre de questions. Qu'on n'est pas en train de constamment se dire, est-ce que ce que je fais, c'est bien, est-ce que je le fais bien? Parce que quelque part, le journalisme, c'est du service public quand même. C'est pas... Carrément. On le fait pas pour nous, a priori. Pas que, en tout cas.
Merci beaucoup, Anan. C'était super intéressant. Je te remercie pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous.
Désolée pour la post-prod que tu vas devoir.
J'en fais très peu.
Mais c'est 1h30. Ah, tu vas garder
1h40?
Ouais. Ok, d'accord. C'est combien de temps en moyenne? Parce que j'ai écouté celui de Afou, qui était pas moins.
Une heure, en moyenne, j'essaie de rester dans l'heure.
D'accord.
Est-ce que tu, peut-être que tu connais, enfin, tu sais ce que je vais faire, je vais couper là maintenant et on pourra parler ensuite.
Merci beaucoup.
Merci à tout le monde, salut.